De l'inégalité qui est entre nous. Chapitre 42. Plutarque dit en quelques lieux qu'il ne trouve point si grande distance de bête à bête comme il trouve d'homme à homme. Il parle de l'aptitude de l'âme et qualités internes. À la vérité, je trouve si loin d'Épaminondas, comme je l'imagine, jusqu'à tel que je connais, je dis capable de sens commun, que j'enchérirais volontiers sur Plutarque et dirais qu'il y a plus de distance de tel à tel homme qu'il n'y a de tel homme à telle bête. Ah, quelle supériorité d'un homme sur un autre! Et qu'il y a autant de degrés d'esprit qu'il y a d'ici au ciel de brasse et autant innumérables. Mais à propos de l'estimation des hommes, c'est merveille que, sauf nous, aucune chose ne s'estime que par ses propres qualités. Nous louons un cheval de ce qu'il est vigoureux et adroit. Ainsi louons-nous un cheval rapide qui obtient sans effort d'unanimes applaudissements fervents et une victoire qui exulte dans le cirque enroué. Nom de son harnais, un lévrier de sa vitesse, nom de son collier, un oiseau de son aile, nom de ses longes et sonnettes. Pourquoi de même n'estimons-nous un homme par ce qui est sien ? Il a un grand train, un beau palais, tant de crédits, tant de rentes, tout cela est autour de lui, non en lui. Vous n'achetez pas un chat en poche. Si vous marchandez un cheval, vous lui ôtez ses bardes, vous le voyez nu et à découvert, ou s'il est couvert, comme on les présentait anciennement aux princes à vendre, c'est par les parties moins nécessaires, afin que vous ne vous amusiez pas à la beauté de son poil ou largeur de sa croupe, et que vous vous arrêtiez principalement à considérer les jambes, les yeux et le pied, qui sont les membres les plus utiles. C'est la coutume des rois, quand ils achètent des chevaux, de les examiner couverts, de peur que si, comme il arrive souvent, un bel aspect repose sur un pied faible, l'acheteur ne soit entraîné par son admiration pour une belle croupe, une tête petite, une haute encolure. Pourquoi, estimant un homme, l'estimez-vous tout enveloppé et empaqueté? Il ne nous fait montre que des parties qui ne sont aucunement siennes et nous cache celles par lesquelles seul on peut vraiment juger de son estimation. C'est le prix de l'épée que vous cherchez, non de la gaine. Vous n'en donnerez à l'aventure pas un quatrain si vous l'avez dépouillé. Il le faut juger par lui-même, non par ses atours. Et comme dit très plaisamment un ancien, savez-vous pourquoi vous l'estimez grand? Vous y comptez la hauteur de ses patins. La base n'est pas de la statue. Mesurez-le sans ses échasses. Qu'il mette à part ses richesses et honneurs, qu'il se présente en chemise, a-t-il le corps propre à ses fonctions, sain et allègre? Quelle âme a-t-il? Est-elle belle, capable et heureusement pourvue de toutes ses pièces? Est-elle riche du sien ou de l'autrui? La fortune n'y a-t-elle que voir? Si les yeux ouverts, elle attend les épées traites, s'il ne lui chaud par où lui sorte la vie, par la bouche ou par le gosier, si elle est rassise, égale et contente, c'est ce qu'il faut voir, et juger par là les extrêmes différences qui sont entre nous. Est-il un sage maître de lui-même que ni la pauvreté, ni la mort, ni la prison n'effraie, ferme pour résister aux désirs et mépriser les honneurs, tout en soi rond et poli pour que rien d'extérieur n'ait le pouvoir de le freiner, lui que la fortune assaille toujours sans succès? Un tel homme est 500 brasses au-dessus des royaumes et des duchés. Il est lui-même à soi son empire.
Le sage, par Pollux, se forge lui-même sa fortune.
Que lui reste-t-il à désirer? Ne voyons-nous pas que la nature ne réclame rien d'autre que l'absence de douleur physique, la jouissance de la raison, le plaisir d'être sans souci et sans crainte? Comparez-lui la tourbe de nos hommes, stupides, basses, serviles, instables et continuellement flottantes en l'orage des passions diverses, qui la poussent et repoussent, dépendant toutes d'autrui. Il y a plus d'éloignement que du ciel à la terre, et toutefois l'aveuglement de notre usage est tel que nous en faisons peu ou point d'état. Là où, si nous considérons un paysan et un roi, un noble et un vilain, un magistrat et un homme privé, un riche et un pauvre, il se présente soudain à nos yeux une extrême disparité qui ne sont différents par manière de dire qu'en leur chose. En Thrace, le roi était distingué de son peuple d'une plaisante manière et bien renchéri. Il avait une religion à part, un dieu tout à lui, qu'il n'appartenait à ses sujets d'adorer. C'était Mercure, et lui dédaignait les leurs, Mars, Bacchus, Diane. Ce ne sont pourtant que peintures, qui ne font aucune dissemblance essentielle. Car, comme les joueurs de comédie, vous les voyez sur l'échafaud faire une mine de duc et d'empereur, mais tantôt après, les voilà devenus valets et crocheteurs misérables, qui est leur naïve et originelle condition. Aussi l'empereur, duquel la pompe vous éblouit en public, de grosses émeraudes à l'éclat vert sont serties dans l'or, et les vêtements de pourpre se froissent sans cesse et boivent la sueur de Vénus. Voyez-le derrière le rideau. Ce n'est rien qu'un homme commun et à l'aventure plus vil que le moindre de ses sujets. Celui-là trouve en lui-même son bonheur, celui-ci a une félicité qui brille en surface. La couardise, l'irrésolution, l'ambition, le dépit et l'envie l'agitent comme un autre. Ni les trésors, ni les licteurs consulaires ne chassent les pénibles troubles de l'esprit et les soucis qui volettent sous les plafonds lambrissés. Et le soin et la crainte le tiennent à la gorge au milieu de ses armées. En vérité, les craintes des hommes et les soucis qui les poursuivent ne craignent ni le fracas des armes, ni les armes cruelles. Ils fréquentent impudemment les rois et les puissants et ne sont pas impressionnés par l'éclat donné par l'or. La fièvre, la migraine et la goutte l'épargnent-elles non plus que nous? Quand la vieillesse lui sera sur les épaules, les archers de sa garde l'en déchargeront-ils? Quand la frayeur de la mort le transira, se rassurera-t-il par l'assistance des gentilshommes de sa chambre? Quand il sera en jalousie, en caprice, nos bonnes tannes le remettront-elles? Ce ciel de lit tout enflé d'or et de perles n'a aucune vertu à rapaiser les tranchées d'une verte colique. Et les fièvres brûlantes ne quittent pas plutôt le corps si l'on s'agite dans des tissus brodés et dans la pourpre que s'il faut coucher dans des draps grossiers. Les flatteurs du grand Alexandre lui faisaient à croire qu'il était fils de Jupiter. Un jour, étant blessé, regardant écouler le sang de sa plaie, « Eh bien, qu'en dites-vous » fit-il. « Est-ce pas ici un sang vermeil et purement humain ? Il n'est pas de la trempe de celui qu'Homère fait écouler de la plaie des dieux. » Hermodore, le poète, avait fait des vers en l'honneur d'Antigonus, où il l'appelait « fils du soleil ». Et lui, au contraire, « Celui, dit-il, qui vide ma chaise percée, sait bien qu'il n'en est rien. C'est un homme pour tout potage. Et si de soi-même c'est un homme mal né, l'empire de l'univers ne le saurait rhabiller. Que les jeunes filles se l'arrachent, qu'une rose naisse sous chacun de ses pas. Quoi pour cela, si c'est une âme grossière et stupide? La volupté même et le bonheur ne s'aperçoivent point sans vigueur et sans esprit. Ils valent autant que l'âme de qui les possède, ils sont bons à qui sait en user, mauvais à qui ne s'en sert pas bien. Les biens de la fortune, tout tels qu'ils sont, encore faut-il avoir le sentiment propre à les savourer. C'est le jouir, non le posséder, qui nous rend heureux. Une maison et des terres, un monceau de monnaie et d'or, ne saurait chasser la fièvre du corps malade du maître, ni les soucis de son âme. Il faut que le possesseur soit en bonne santé pour songer à profiter des biens amassés. À qui éprouve désir ou crainte, sa maison et son bien donnent autant de plaisir qu'un tableau à un chassieux ou des baumes à un goûteux. Il est un sot. Son goût est mousse et hébété. Il n'en jouit non plus qu'un morfondu de la douceur du vin grec, ou qu'un cheval de la richesse du harnais duquel on l'apparaît. Tout ainsi comme Platon dit que la santé, la beauté, la force, les richesses et tout ce qui s'appelle bien est également mal à l'injuste, comme bien au juste, et le mal au rebours. Et puis, où le corps et l'âme sont en mauvais état, à quoi faire ces commodités externes? Vu que la moindre piqûre d'épingle et passion de l'âme est suffisante à nous ôter le plaisir de la monarchie du monde,
à la première straite que lui donne la goutte,
il a beau être sire et majesté, tout forgé d'or et d'argent, perd-il pas le souvenir de ses palais et de ses grandeurs? S'il est en colère, sa principauté le garde-t-elle de rougir, de pâlir, de grincer les dents comme un fou? Or, si c'est un habile homme et bien né, la royauté ajoute peu à son bonheur. Si ton ventre, tes poumons et tes pieds vont bien, les richesses d'un roi n'y pourront rien ajouter. Il voit que ce n'est que bif et piperie. Oui, à l'aventure, il sera de l'avis du roi Séleucos que qui saurait le poids d'un sceptre ne daignerait l'amasser quand il le trouverait à terre. Il le disait pour les grandes et pénibles charges qui touchent un bon roi. Certes, ce n'est pas peu de choses que d'avoir à régler autrui, puisqu'à régler nous-mêmes, il se présente tant de difficultés. Quant au commandé, qui semble être si doux, considérant l'imbécilité du jugement humain et la difficulté du choix est-ce chose nouvelle et douteuse, je suis fort de cet avis qu'il est bien plus aisé et plus plaisant de suivre que de guider, et que c'est un grand séjour d'esprit de n'avoir à tenir qu'une voie tracée et à répondre que de soi. Aussi vaut-il beaucoup mieux obéir tranquillement que vouloir régir l'État. Joint que Cyrus disait qu'il n'appartenait de commander à homme qui ne vaille mieux que ceux à qui il commande. Mais le roi Hiéron, en Xénophon, dit davantage qu'à la jouissance des voluptés même, ils sont de pires conditions que les privés. D'autant que l'aisance et la facilité leur ôtent l'aigre douce pointe que nous y trouvons. Un amour complet et trop assouvi nous mène à l'ennui et fait mal au cœur comme la douceur du sucre. Pensons-nous que les enfants de cœur prennent grand plaisir à la musique? La satiété la leur rend plutôt ennuyeuse. Les festins, les danses, les mascarades, les tournois réjouissent ceux qui ne les voient pas souvent et qui ont désiré de les voir. Mais à qui en fait ordinaire, le goût en devient fade et malplaisant. Ni les dames ne chatouillent celui qui en jouit à cœur sous. Qui ne se donne loisir d'avoir soif ne saurait prendre plaisir à boire. Les farces des batteleurs nous réjouissent, mais aux joueurs, elles servent de corvée. Et qu'il soit ainsi. Ce sont délices aux princes, c'est leur fête, de se pouvoir quelquefois travestir et démettre à la façon de vivre basse et populaire. Souvent, le changement plaît aux princes, et des repas simples, sous le toit modeste des pauvres, sans tenture ni pourpre, ont déridé leur front soucieux. Il n'est rien si empêchant, si dégoûté que l'abondance. Quel appétit ne se rebuterait à voir 300 femmes à sa merci, comme les a le grand seigneur en son sérail? Et quel appétit et visage de chasse s'était réservé celui de ses ancêtres, qui n'allait jamais au champ à moins de 7000 fauconniers? Et outre cela, je crois que ce lustre de grandeur apporte non légères incommodités à la jouissance des plaisirs plus doux, ils sont trop éclairés et trop en but. Et je ne sais comment on requiert plus d'eux de cacher et couvrir leurs fautes, car ce qui est à nous indiscrétion, à eux le peuple juge que ce soit tyrannie, mépris et dédain des lois. Et outre l'inclination au vice, il semble qu'ils y ajoutent encore le plaisir de gourmander et soumettre à leurs pieds les observances publiques. Devrait Platon, en son Gorgias, définit tyran celui qui a licence en une cité d'y faire tout ce qui lui plaît. Et souvent, à cette cause, la montre et publication de leurs vices blessent plus que le vice même. Chacun craint à être épié et contrôlé. Ils le sont jusqu'à leur contenance et à leur pensée, tout le peuple estimant avoir droit et intérêt d'en juger. Outre ceux, que les taches s'agrandissent selon l'éminence et clarté du lieu où elles sont assises, et qu'une marque et une verrue au front paraissent plus que ne fait ailleurs une balafre. Voilà pourquoi les poètes feignent les amours de Jupiter conduites sous autre visage que le sien, et de tant de pratiques amoureuses qu'ils lui attribuent, il n'en est qu'une seule, ce me semble, où il se trouve en sa grandeur et majesté. Mais revenons à Hiéron. Il récite aussi combien il sent d'incommodité en sa royauté pour ne pouvoir aller voyager en liberté, étant comme prisonnier dans les limites de son pays, et qu'en toutes ses actions, il se trouve enveloppé d'une fâcheuse presse. De vrai, avoir les nôtres tout seul à table, assiégé de tant de parleurs et regardants inconnus, j'en ai eu souvent plus de pitié que d'envie. Le roi Alphonse disait que les ânes étaient en cela de meilleures conditions que les rois. Leurs maîtres les laissent paître à leur aise, là où les rois ne peuvent pas obtenir cela de leurs serviteurs. Et ne m'est jamais tombé en fantaisie que ce fût quelque notable commodité à la vie d'un homme d'entendement d'avoir une vingtaine de contrôleurs à sa chaise percée, ni que les services d'un homme qui a 10 000 livres de rente, ou qui a pris Casal, ou défend Ducienne, lui soient plus commodes et acceptables que d'un bon valet et bien expérimenté. Les avantages principesques sont quasi avantages imaginaires. Chaque degré de fortune a quelque image de principauté. César appelle roitelet tous les seigneurs ayant justice en France de son temps. De vrai, sauf le nom de sire, on va bien avant avec nos rois. Et voyez aux provinces éloignées de la cour, nommons Bretagne par exemple, le train, les sujets, les officiers, les occupations, le service et cérémonie d'un seigneur retiré et casanier, nourri entre ses valets, et voyez aussi le vol de son imagination. Il n'est rien plus royal. Il oit parler de son maître une fois l'an, comme du roi de Perse, et ne le reconnaît que par quelque vieux cousinage que son secrétaire tient en registre. À la vérité, nos lois sont libres assez, et le poids de la souveraineté ne touche un gentilhomme français à peine 2 fois en sa vie.
La sujétion essentielle et effectuelle ne regarde d'entre nous que ceux qui s'y convient,
et qui aime à s'honorer et enrichir par tel service, car qui se veut tapir en son foyer et sait conduire sa maison sans querelle et sans procès, il est aussi libre que le duc de Venise. La servitude retient peu d'hommes, plus nombreux sont ceux qui retiennent la servitude. Mais surtout Hiéron fait cas de quoi il se voit privé de toute amitié et société mutuelle, en laquelle consiste le plus parfait et doux fruit de la vie humaine. Car quel témoignage d'affection et de bonne volonté puis-je tirer de celui qui me doit, veuille-t-il ou non, tout ce qu'il peut? Puis-je faire état de son humble parler et courtoise révérence, vu qu'il n'est pas en lui de me la refuser? L'honneur que nous recevons de ceux qui nous craignent, ce n'est pas honneur. Ces respects se doivent à la royauté, non à moi. Le plus grand avantage de la royauté, c'est que le peuple est obligé tant de supporter que de louer les actes de son maître. Vois-je pas que le méchant, le bon roi, celui qu'on hait, celui qu'on aime, autant en a l'un que l'autre? De mêmes apparences, de même cérémonie était servi mon prédécesseur, et le sera mon successeur. Si mes sujets ne m'offensent pas, ce n'est témoignage d'aucune bonne affection. Pourquoi le prendrais-je en cette part-là, puisqu'il ne pourrait quand il voudrait? Nul ne me suit pour l'amitié qui soit entre lui et moi, car il ne s'y saurait coudre amitié où il y a si peu de relations et de correspondances. Ma hauteur m'a mis hors du commerce des hommes. Il y a trop de disparités et de disproportions. Ils me suivent par contenance et par coutume, ou plutôt que moi ma fortune, pour en accroître la leur. Tout ce qu'ils me disent et font, ce n'est que phare, leur liberté étant bridée de toutes parts par la grande puissance que j'ai sur eux. Je ne vois rien autour de moi que couvert et masqué. Ces courtisans louaient un jour Julien l'empereur de faire bonne justice. Je m'enorgueillirais volontiers, dit-il, de ces louanges, si elles venaient de personnes qui osassent accuser ou m'élouer mes actions contraires, quand elles y seraient. Toutes les vraies commodités qu'ont les princes leur sont communes avec les hommes de moyenne fortune. C'est affaire odieux de monter des chevaux ailés et se paître d'ambroisie. Ils n'ont point d'autre sommeil et d'autre appétit que le nôtre. Leur acier n'est pas de meilleure trempe que celui de quoi nous nous armons. Leur couronne ne les couvre ni du soleil, ni de la pluie. Dioclétien, qui en portait une si révérée et si fortunée, la résigna pour se retirer au plaisir d'une vie privée, et, quelque temps après, la nécessité des affaires publiques requérant qu'il revînt en prendre la charge, il répondit à ceux qui l'en priaient « Vous n'entreprendriez pas de me persuader cela si vous aviez vu le bel ordre des arbres que j'ai moi-même plantés chez moi et les beaux melons que j'y ai semés. » À l'avis d'Anarchasis, le plus heureux état d'une police serait où, toute autre chose étant égale, la précédence se mesurait à la vertu et le rebut au vice. Quand le roi Pyrrhus entreprenait de passer en Italie, Cinéas, son sage conseiller, lui voulant faire sentir la vanité de son ambition, « Eh bien, sire, lui demanda-t-il, à quelle fin dressez-vous cette grande entreprise ?»« Pour me faire maître de l'Italie, » répondit-il soudain. « Et puis, suivit Cinéas, cela fait ?»« Je passerai, dit l'autre, en Gaule et en Espagne. Et après ?» Je m'en irai subjuguer l'Afrique. Et enfin, quand j'aurai mis le monde en ma sujétion, je me reposerai et vivrai content et à mon aise. « Pour Dieu, sire, » rechargea alors Cinéas, « dites-moi à quoi il tient que vous ne soyez dès à présent, si vous voulez, en cet état. Pourquoi ne vous logez-vous dès cette heure où vous dites aspirer et vous épargnez tant de travail et de hasard que vous jetez entre deux ?» Parce qu'apparemment, il ne savait pas bien quelle était la limite de la possession et jusqu'où, au total, peut monter le vrai plaisir. Je m'en vais clore ce pas par un verset ancien que je trouve singulièrement beau à ce propos. « Chacun forge sa fortune par son caractère. »